Et donc, son avenir capacitaire, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait dans ce que vous venez de dire, c'est véritablement la place de la France en Europe. C'est-à-dire que la France garde une place éminente parce qu'elle est au Conseil, elle est membre permanent du Conseil de sécurité, elle dispose de l'arme nucléaire, mais il y a effectivement d'autres acteurs qui sont en train de monter en puissance. On peut passer notamment à l'Allemagne et à la Pologne, bien entendu. Et il y a aussi la France, peut-être qu'il faudrait évoquer, c'est la France dans son environnement, parce qu'on n'est pas seul. Et il y a donc l'environnement UE-OTAN. Et il y a quand même un élément qui me semble intéressant quand on parle de la France, c'est aussi, au-delà de l'équipement, au-delà de l'argent que l'on consacre à la défense, il y a aussi le problème de la volonté. Et donc il y a le problème aussi des acteurs, c'est-à-dire que quels acteurs sont présents, par exemple, sur le créneau moyen-oriental actuellement, dans le GOM, avec une Allemagne, comme vous l'avez dit, qui veut consacrer 160 milliards d'euros pour la défense, mais qui est singulièrement atone actuellement. Elle est absolument absente du processus de résolution des crises. Donc ça veut dire également, vraisemblablement, que aligner les équipements, aligner l'argent, n'est pas tout à fait suffisant pour devenir une puissance. Voilà, alors, je voudrais vous poser la question. Il y a deux questions, en fait, moi, qui m'intéressent. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, alors ce n'est pas tout à fait sur le même registre, mais il y a la question de la masse, parce que dans les défis actuels, il y a aussi le problème de masse. Je crois qu'Éric y a un peu répondu en disant qu'il faut 25 ans pour former un colonel, 30 ans pour former un général, etc. etc. Donc, si on veut redonner de la masse, ce n'est pas deux ans. Faut-il se donner de la masse, parce qu'on ne part pas sur ce segment-là actuellement, évidemment. On est en phase de recomplètement, des stocks, etc., d'effectivement de l'armée, mais pas de masse, c'est-à-dire de créer des régiments, etc. Et puis la deuxième question, celle que je viens de poser, c'est véritablement la place de la France dans l'UE, l'OTAN, avec un OTAN qui va sûrement repartir pour le moment en mort cérébrale, et une UE qui reste singulièrement absente de tout. Donc, doit-on compter sur nous seuls actuellement ou, je veux dire, nos alliances font-elles sens dans un monde qui est en train de partir à bout de l'eau? Alors, qui veut commencer à répondre à ça?
Premier sujet concernant la masse. Bon, il y a un vieil adage à l'élection étrangère que l'on récite tous les 30 avril. Sa masse est des soldats, la vie plutôt que le courage abandonna ce soldat français. Voilà. Ça, c'est la fin de la vie du combat de Tabrune. Et la masse est une qualité en soi. Enfin, je rappelle que les Zoulous ont battu l'armée britannique à la fin du 19e. Voilà. Avec des lances et des pêches, là où les soldats britanniques avaient la fameuse capitaine carabine à répétition qui faisait merveille. En fait, le sujet de la masse, c'est le sujet de la permanence, de la continuité, de la durabilité de l'investissement financier. Je vais prendre deux exemples. Le premier, les frégates. Sous votre contrôle, amiral, lorsqu'on a lancé le programme FREM, on l'a lancé avec 24 frégates. Aujourd'hui, les FREM, on doit en avoir 17. Puis M. Le Brillant est allé à l'Orient. Et rentrant de l'Orient, on est parti d'un programme FREM qui est devenu un programme FDI. Et au départ, une frégate de taille intermédiaire, une frégate d'un plus petit modèle. La vue du côté marin, c'est-à-dire plus ma série sera longue, plus il sera simple de former mes équipages, plus il sera simple d'entretenir en fait ma flotte, plus mon système sera polyvalent, et c'est ce que j'ai fait. Parce que je suis action d'état en mer, je suis marine de haute mer, et je vais être capable d'avoir une quantité suffisante d'engins. Là où, au plan industriel, on est toujours dans cet équilibre. Naval Group, à l'instant donné, avait sans doute besoin d'augmenter, de consolider son carnet de commandes ou son carnet d'offres, qui ferait d'être peut-être de taille plus modeste, presque aussi polyvalente, mais moins chère, susceptible d'être vendue à l'extérieur. On le retrouve dans tout l'équipement terrestre. Ou très rapidement, quand on parle de camions, quand on a fait l'acquisition de nos camions logistiques, on a transformé 4000 camions en 1800 camions plus gros. Ah oui, c'est hyper simple. C'est super si on va tous au même endroit. Il y a des fois qu'on a plusieurs itinéraires, plusieurs localisations de coup de bourse, c'est toujours compliqué. Et donc, au bout de 800, des 1800 qu'on avait commandés, on s'est dit, bon, on n'a pas marre de faire ce camion, c'est un peu toujours le même, est-ce qu'on ne pourrait pas acheter autre chose? Et en fait, on est toujours dans cet équilibre qui ne vient en général pas des militaires, mais qui est conçu de l'extérieur et qui dit, voilà comment on pourrait agrémenter, consolider, aider une industrie qui, de toute façon, nous sera nécessaire. Quelle est la contrepartie? La permanence et la durabilité de l'investissement financier. Le sujet de l'AFD, on l'aurait sans doute pas eu à traiter, ce n'est autre chose que 5 milliards, 3 ou 5 milliards 4, mais 3 ans, pendant quasiment 10 ans, sur la partie qui fonctionne. Donc, un projet finit par se substituer à ce qui a déjà été lancé, alors que dans le besoin militaire, il y a une réalité, mais il s'agit de le compléter, non pas de se substituer. Au bilan, qu'est-ce que ça donne? Ben, aujourd'hui, on a la moitié de l'armée de terre qui est équipée Scorpion. Parce qu'on a dit 50% d'équipement Scorpion de 2025. Bon, en 2026, ça va prendre tout de suite. Et on s'aperçoit que petit à petit, on retarde systématiquement la modernisation. Là où, en 1980, on était capable de livrer 400 000 fusils en 4 ans, on a mis 10 ans à livrer 100 000 fusils HK. Parce qu'en fait, avoir des séries longues qui est pertinent au plan de l'emploi, du soutien logistique, qu'on produit parfois le besoin de nouveautés, de consolidation de carnets d'offres de l'ensemble des industriels. Et génère chez l'industriel le besoin de faire des chaînes de montage qui sont supérieures. C'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui sur la production des canons, la production des missiles, la production des obus. Où vous allez chez cette industrie, aujourd'hui qui a NDS, il y a un expert. Lorsque vous voulez.
Vous en prie, monsieur. Répondez.
Mais non, mais non. Vous rentrez dans ces dispositions avec le besoin d'ouvrir des chaînes complémentaires. Et quel est le but de l'industriel? J'ouvre une chaîne complémentaire, est-ce que je pourrais amortir le prix de cette chaîne complémentaire? Vous avez cette discussion avec Embedder, vous avez cette discussion avec KNDS. Vous avez ces discussions avec tous les industriels qui produisent et qui savent la respectabilité de l'offre publique. Et l'offre publique défense ne fait pas exception. Et alors, c'est regrettable. Il faudrait au moins avoir, nous avons 200 000 militaires en France. On peut définir que le seuil nucléaire est à 200 000. Mais au moins que nos 200 000 soient armés, équipés comme des Rambo, prêts à faire face à tout ce qui est nécessaire. C'est ça, j'aime. 200 000 militaires dans les armées. Je rappelle qu'on a un peu plus sur les armées en Chine. Voilà, dans mon général, vous ne pouvez pas la louper, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, et je pense que c'est ça le sujet de la masse, et il faut savoir que ça reste un compromis qui est toujours malsain, mais qui est une des conséquences majeures de l'absence de ressources financières pendant des périodes.
J'abonde absolument sur le sujet de la masse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, y compris sur le plan de l'appareil industriel, qui s'est construit pendant des années comme un grand cardiaque qui essayait de consommer le moins possible pour vivre le plus longtemps possible et donc des séries le plus longues possible pour faire travailler et les bureaux d'études et les lignes de production. Et puis tout à coup, à qui on demanderait de faire. De faire des 100 mètres en consommant beaucoup sur une petite période, mais en faisant moins cher. Donc on est évidemment aujourd'hui sur un changement de mentalité et de modèle qui est très difficile et pour la DGA et pour les industriels et même pour les armées. Quelques exemples. On a dans l'effort munitions de l'actualisation, là, par exemple, du côté de ce qu'on appelle les munitions conventionnelles, qui sont souvent décrites dans les médias comme des drones en Ukraine, dans les champs de bataille, qui sont en fait la plupart du temps des munitions téléopérées parce qu'elles ne sont pas censées revenir. L'armée de terre, je crois, sous contrôle du colonel, a fait un certain nombre d'études et estime aujourd'hui que dans le cadre de l'hypothèse d'engagement majeur, 187 000, je crois, munitions qui ont été intérêt de courte portée serait l'objectif, effectivement, quand vous réfléchissez, 187 000, c'est 1000 munitions par jour pendant 6 mois. C'est pour un corps d'armée quelque chose de tout à fait raisonnable. À l'échelle de la haute intensité, en Ukraine, ils en consomment 5 à 137 000 par jour. Et donc, on est dans cette sorte de grandeur. Quand je regarde l'actualisation de la loi de programmation, je vois plus 400% pour les munitions téléopérées. C'est quand même de regarder qu'est-ce qu'on avait commandé comme munitions téléopérées à ce jour. Je vois qu'on avait commandé voilà, quelques centaines de munitions à l'essai, donc 400% x 5. On n'est pas dans l'ordre de grandeur de la masse telle qu'elle est envisagée en termes d'expression de besoin. 300 terminaux OneWeb, un peu l'équivalent européen des terminaux Starlink. En Ukraine, aujourd'hui, vous avez 200 000 terminaux, c'est-à-dire 1 pour 4 militaires ukrainiens. Donc on est, même si on se met à l'échelle de la masse du volume français, sur un certain nombre d'objets, on en est quand même loin. Sur votre question sur la place de la France en Europe et ses capacités d'entraînement, je dirais que la France est et demeure militairement crédible en Europe, et c'est sa principale force d'entraînement. Sa crédibilité militaire, elle se décrit d'abord, évidemment, par la question de la dissuasion, je le mets de côté, ensuite par sa réactivité. Ça, c'est très frappant, vous pouvez discuter avec n'importe quel Européen qui a vu le Sperat Battalion français être déployé en 72 heures en Roumanie en 2022 parce qu'il était d'alerte OTAN et ça n'a pas été simple, mais ça a été fait. Et un dispositif comme le Guépard, un dispositif de réactivité comme le plan national d'urgence, il y a très peu de pays en France qui l'ont et ça, ça a crédibilité. Et puis l'aguerrissement, évidemment, puisque les soldats français qui sont déployés en Europe, ce sont des soldats qui ont connu les opérations, qui ont connu les opérations de guerre. Ce n'est pas le cas de la plupart des armées européennes. Donc cette crédibilité militaire, cette capacité à penser, la manœuvre, interarmes, etc., elle est réelle. Pour autant, les trous capacitaires que j'évoquais, ils sont réels aussi et ils sont de plus en plus flagrants. Quand on va en Pologne, et qu'on nous dit, ok, vous voulez qu'on rentre dans votre corps d'armée, mais qu'est-ce que vous avez comme élément organique de corps d'armée à me proposer? Qu'est-ce que vous avez comme Aymar, comme lance-roquettes? Et vous arrivez avec les chiffres qu'on peine à voir aujourd'hui de ce qui est encore en activité au 1er régiment d'artillerie. En fait, vous avez beau avoir votre crédibilité réelle du segment médian, il y a quand même un moment où les gens vous demandent. Un général, un officier général français qui me disait, je ne le citerai pas, mais qui me disait, je n'arrive pas à monter sur le ring aujourd'hui du champ de bataille moderne avec la longe qui est nécessaire pour pouvoir commencer à manœuvrer. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de défense d'accompagnement, de guerre électronique, de portée, d'allonge, que je n'ai pas, et donc je n'ai pas l'ampleur qui est nécessaire. Enfin, le dernier problème pour la place de la France en Europe, il y a une question industrielle. À un moment où, encore une fois, et je suis tout à fait d'accord avec vous, l'Allemagne est politiquement atone, surtout au-dehors du champ européen, dans le champ extra-européen, mais l'Allemagne n'a pas pour ambition de peser sur le conflit du Moyen-Orient. Ils n'ont pas cette ambition. Je discutais avec le chef d'état-major de la marine allemande, la Deutsche Marine, qui disait, moi, mon ambition, elle se limite à la mer Baltique et de temps en temps à faire des sorties en Atlantique Nord. Mais sur ce segment-là, notre ambition est très limitée, mais sur ce segment-là, je veux être le meilleur, la force d'entraînement, la permanence et la capacité avec la puissance de feu, avec la compréhension de l'espace qui domine entièrement. Donc on a des pays européens qui ont réduit très massivement leur horizon et leur ambition en augmentant leur capacité pour le faire. La France a l'armée la plus ambitieuse d'Europe, ça c'est sûr. Mais ses ambitions, aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de capacités, pose question. Et donc, voilà, peut-on encore peser sur tous ces, sur tous les champs et tout et tous les espaces de conflictualité. On peut changer la manière dont on le fait. Aujourd'hui, la manière dont on opère en Afrique est très différente de la manière dont on y opérait il y a 10 ans. Et je pense que ça montre aussi la manière d'approcher les espaces lointains et périphériques. Il y a des endroits où on n'a pas le choix, c'est nos outre-mer. Et puis, il y a l'espace européen. Industriellement, enfin, on a, j'ai envie de dire, une BITD, une structure industrielle qui est née des années 60, d'un certain nombre d'impératifs de souveraineté, de contrôle de la chaîne de valeur, qui nous ont positionnés avec des sanctions dans presque tous les domaines, mais qui ne nous mettent pas forcément dans les meilleures positions pour coopérer. Et on les voit très bien sur la table. D'Assaut n'avait industriellement, objectivement, aucun intérêt à coopérer avec un bout, puisque cet avion, ils savent le faire. Ils ont les capacités. Ils n'ont pas les moyens. La France n'a pas les moyens de se le payer seule. Mais industriellement, effectivement, D'Assaut n'a pas intérêt à transférer des technologies à celui qui est encore aujourd'hui, ne serait-ce que dans le domaine Eurofighter contre Rafale, son concurrent. Donc aujourd'hui, la capacité d'une BITD française très cohérente, mais qui repose sur un schéma très national, à jouer ses forces d'entraînement avec les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, et le schéma industriel dont nous sommes hérités, n'est pas évident. Et à mon avis, ça va être l'un des grands défis des années à venir. Je vois des instruments financiers très intéressants qui se mettent en place, comme Edith, avec 135 milliards d'euros pour le prochain budget pluriannuel à partir de 2028 de l'Union européenne. Je ne sais pas dans quelle mesure nos industries françaises sont les mieux positionnées, parce que cet argent et les critères d'éligibilité dépendront de leur capacité à agir en partenariat, mais aujourd'hui c'est difficile. Alors vous avez des équipementiers qui sont très forts là-dessus, et du côté des systèmes, on a un gros défi.
Peut-être juste un tout petit complément. Sur l'OTAN, moi je trouve que la France ne cesse de progresser pour améliorer les choses et s'intégrer dans son système. Aujourd'hui, ce qui a été fait sur tout ce qui est plan d'engagement et cohérence avec le système français me paraît bien et à peu près en face. Nous avons aujourd'hui une gamme d'officiers supérieurs, que ce soit terriens, aviateurs ou marins, qui de plus en plus ont été intégrés dans les états-majors de l'OTAN, maîtrisent mieux la langue, maîtrisent mieux la façon d'être, la façon de faire, et se comportent, s'intègrent mieux dans le système général. Pour ce qui concerne l'Union européenne, je pense que la marche est plus difficile à monter, parce que l'Union européenne, en fait, n'est pas une unité politique qui envisage de faire la guerre ou de se défendre. Il y a une structure un peu particulière proche de l'Union européenne qui s'appelle l'Agence européenne de défense. Moi, pendant 5 ans, j'étais le président du comité des directeurs de capacité de l'Agence européenne de défense. C'est beau. Oui, c'est très élégant. Dans ce grand bénévolat, en fait, il y a une chose que j'ai constatée. Tous les ans, il y avait un point avec l'ensemble des ministres de la défense. Parce que ça, ce n'est pas la Commission, ce sont les États. Et le système de l'Union européenne, c'est que la Commission ne préempte pas les décisions des États. Et vous vous souvenez, pour les États, les filières régaliennes appartiennent aux États et les lois européennes ne s'y appliquent pas. Vous vous souvenez de la question qu'on a dû traiter sur les 35 heures. Dans le sujet de l'ED, je n'ai jamais vu un ministre des armées venir à l'ED, à ces réunions. Et en fait, on est un peu dans une prophétie autoréalisatrice. Ça ne sert à rien, on n'y va pas, ça ne sert à rien. Et c'est la problématique que nous avons, nous Français, d'abord parce qu'on est très occupés. Ensuite, parce que c'est toujours trop loin. Et enfin, parce qu'on a besoin de personne pour faire. Et j'aime beaucoup le raisonnement sur D'Assaut, avant de vous laisser la parole. En fait, D'Assaut estime qu'il faut faire un avion tout seul. Il a oublié que pour faire le Rafale, il n'a pas fallu préempter l'argent de toute l'armée, mais il a fallu 2 années de suite racler l'argent de toutes les armées pour être capable de faire le commandement. Et donc, on est dans des dispositions où on a des champions, mais on n'est pas capable, avec l'investissement que nous faisons, de payer au juste prix ce qu'ils sont capables de produire et qui sort toujours de nos cerveaux.
Et pour cette lucidité, et c'est des choses qu'on oublie, c'est vrai qu'on a des champions, mais que ça a un coût faramineux. Moi, je me souviens à propos de Rafale que des avions avaient été distraits du champ de bataille à un moment donné pour pouvoir faire des démonstrations aériennes au profit d'Astier. Donc, c'est toute la limite du système. Voilà. Alors, le temps passe. Quelques questions rapides.
Alors, une question qui va complémenter la souveraineté. La souveraineté, y compris même le scalp, est intéressant, parce que bon, c'est pas exactement tout à fait ce que vous avez dit, c'est un peu simplifié. Hein. Autant on est d'accord que pour plus d'un taux, etc. Mais le débat, c'est qu'il y a
la simplification abusive.
Oui, là, il y en a en face de nous, d'industrie qui est là dans le temps. Hein. Et puis surtout, ma question était plutôt comment on s'assure de nos souverainetés. Savoir, par contre, en prenant encore l'exemple du SCALP, comment, quand on fait des modifications de l'organigramme de Boeing, d'Airbus, on ne se retrouve pas en ayant fait un monstre où on a installé un directeur général parce que c'était le groupe allemand, on en revend des pouvoirs et en ayant un axe Espagne-Berlin qui est en train de reprendre le SCALP, entre guillemets, allemand. Donc c'est assez différent, c'est un truc simplificateur. Mais je dis, comment on va assurer notre souveraineté, justement, en surveillant la souveraineté française, si je peux dire, des industriels qui participent à cette souveraineté et qui vont participer à ça. Et en particulier, on va s'assurer que les composants, on n'a pas besoin de quelqu'un qui appuie sur le bouton pour partir de nos avions et de nos bateaux, j'ai fini. Et de la même manière, même pour avoir un IA qui est libre et où on n'est pas sujet aux divers grands acteurs américains.
De manière brève. L'histoire de la France et de l'Allemagne au départ, c'est un équilibre avion-char. Les Allemands pilotent le char, on pilote l'avion et on trouvera un équilibre entre les deux. Là-dessus, il y a quelques faux fuyants. Du côté de la France, l'Allemagne paiera. C'est comme ça depuis 1919. Dans l'Allemagne paiera, on investit très peu, nous, sur le NGC, le futur char, et on laisse l'Allemagne prendre la main. On traite avec Roche-Marfeuille, c'est Bavarois, et on nommait que les plus grands, héritiers de Krupp, Rheinmetall, les Allemands. On nommait, nous, les Jacobins Colbertistes, qu'en face, il y a des fédéraux. Et on finit par laisser la bride, Rheinmetall, Roche-Marfeuille. Et le KNDS qu'on a créé devient Bavarois. Du côté d'Assaut, c'est l'inverse. On est en théorie des chiffres. Et on considère Airbus comme étant Airbus, rue Messerschmitt, Messerschmitt-Strasse à Berlin. En fait, on oublie qu'Airbus, c'est aussi un peu français, mais en fait, un peu comme un étranger. Et on est dans une ambiguïté absolue. Quand on est à deux sur deux sujets, ça fonctionne à peu près. Mesdames, je suis désolé, dans un ménage à trois, je vais vous dire, ça se passe jamais très bien. Madame Parly, avait beaucoup d'estime pour Mme von der Leyen, avait autant d'estime pour son homologue ministre de la Défense espagnol, qui était aussi une femme. Les trois femmes décident entre elles de rajouter l'Espagne. Et là, on voit arriver un axe, Madrid-Berlin, un peu traditionnel, j'ose pas rappeler la période. Et en fait, on arrive à un dispositif de confidence de nos ingénieurs les plus généraux et dévoués fondamentalement à la tâche du SCAF, qui, je le rappelle, portera notre arme de dissuasion nucléaire. Disant, mais écoute, tu n'imagines pas comme on a du mal à traiter un sujet qui est en amont ou qui est arbitré par les Allemands et les Espagnols. Alors que nous devons l'intelligence. Tout est fait pour qu'on puisse garder la main sur ce qui est intelligent et ce qui requiert un surcroît ou un surplus de qualification, mais vous avez entendu comme moi, Eric Trappier, dit régulièrement, il n'y a besoin de personne pour tout faire. Et de bout de moi. Je ne sais pas comment ça finira par finir.
Une question, s'il vous plaît. Après, vous avez évoqué le fait que, je ne veux pas dire nos alliés, mais nos voisins, ne parlent pas d'économie de guerre, mais d'économie. Et nous, nous parlons d'économie de guerre.
Également.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications sur le pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous, Français, nous parlons d'économie de guerre, alors que d'autres se contentent, entre guillemets, de parler d'économie ?
Parce que Rabelais a écrit Les guerres tricocolines et que Marx a écrit Le Capital. En fait, je pense que fondamentalement, l'allemand, c'est un industriel. Fondamentalement, si on les élevait comme ça. En fait, ce qu'on admire pour la France et hier pour l'Union, pour le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, c'est la réactivité. C'est la capacité à s'engager parce qu'on est aux ordres d'un chef, le président de la République, qui dit si je veux, tu pars tout de suite. Alors en Allemagne, on a tellement souffert d'une période récente qu'on s'est dit plus jamais ça. On l'avait dit en 1919, ça a moyennement marché. En 45, on a fait en sorte que la décision ne puisse plus appartenir à un seul. Ils ont développé d'autres compétences parce qu'ils ne sont pas idiots. Et comme ils ont dû repenser tout l'appareil industriel à partir de 1955, c'est-à-dire quand les Français ont fait échouer la CED qu'ils avaient proposée au sein du Concert des Nations, qui était un mélange d'Union européenne, d'OTAN, d'OCDE, de ce que l'on veut, quand ils ont créé les choses, ils ont créé Ex Nihilo. Astra est le plus bel exemple. Astra, c'est Moser. Entre 45 et 55, ils font de la machine à coudre. C'est le petit percuteur. Voilà. En 55, de manière un peu surprenante, on les autorise à construire des armes 6 mois après. Ils font le fusil qui a été le plus fameux des années 60, qui s'appelle le V3, le Général. Il a même servi énormément dans l'armée israélienne, comme quoi il y a des ironies du sort. En fait, ils ont gardé cette compétence industrielle dont ils sont fiers. En fait, c'est un pays d'artisans, c'est un pays de la machine. C'est le pays, en fait, où on n'a jamais abandonné cette capacité industrielle. Le Français, je suis désolé, il est capable d'aller faire la guerre pour ses idées. C'est beau, c'est grand. Voilà, nous, on a fourni des poètes. Et derrière cette idée-là, il y a l'idée qu'on est capable de faire parce qu'on n'est pas plus idiot que les autres, et on l'a démontré, en fait. Envoyer des fusées dans l'espace, créer des bombes atomiques, créer des centrales nucléaires, on démontre qu'on a une vraie ingénierie qui fonctionne. Mais peut-être qu'on y est moins attaché, peut-être qu'on a laissé filer un certain nombre de choses, peut-être qu'on n'a pas été attentif à garder cela. Et aujourd'hui, d'ailleurs, souvenez-vous, on aime aujourd'hui notre industrie. Il y a 20 ans, on n'aimait pas notre industrie. Regardez où vont nos ingénieurs qui sortent de nos écoles d'ingénieurs. Prenez l'école polytechnique, la plus belle, la plus grande, la plus prestigieuse. Ils pensent qu'elles partent dans la banque, dans l'assurance, dans les fonds. Ils partent pas dans l'industrie. C'est pourtant les ingénieurs des mines qui ont fait qu'on a exploité le sol français. En fait, je pense que structurellement, on n'imagine pas l'impact de l'évolution de notre population sur le sentiment de défense. Voilà, donc les Allemands, bon, ils savent que la guerre, ça commencera par l'économie. Les Américains fonctionnent exactement pareil. Les Américains, hein, il y a quelques années, on s'est occupé du système combattant. Vous savez, on a rêvé d'avoir un professeur augmenté. Une carapace, un casque, des lunettes, un fusil, tout super. Quand on en parlait avec les Américains, ils créaient Land Warrior. Donc, plus élégant quand même. Land Warrior, on avait un problème sur le casque, toute la partie équipement, c'est le signet, le machin pour voir, ce qu'on voit à la télé. Robocop. Et l'Américain nous dit, mais en fait, le fantassin sert à porter son équipement. C'est assez simple. Nous, on l'aime bien manœuvrant, scotillant, groupillant, pas lui. Et il va s'habituer. Le Néerlandais raisonne pareil. L'Allemand raisonne pareil. Le Néerlandais dit, mais on va leur faire faire des exercices pour se renforcer le coup. Et on n'aura pas de problème de nuque. C'est vrai ce que je veux dire. Et donc, en fait, vous êtes dans une logique où on imagine, nous, qu'on a un équipement qui pourrait nous servir. Ça, c'est l'expérience des 60 ans qu'on a passé. Et donc, on veut un truc un peu incarné, un peu mini, là où l'Allemand n'a pas été engagé, sauf sur la logistique en Somalie, sauf sur des missions environnementales sur la partie Afghanistan, qui lui dit, derrière la notion de défense, il y a une notion de feu, il y a une notion de puissance, il y a une notion de blindé, une notion d'avion. Et on continue. Quand on a créé le drone mâle avec les Allemands, que nous ont demandé les Allemands? On nous a dit moteur. Bon, drone qui tombe sur le champ de bataille, oui, c'est embêtant. D'accord, on aura récupéré toutes les images, on aura récupéré toutes les choses. Nous, bimoteur, non. On veut le bimoteur. On a fini par lâcher le bimoteur. Parce que l'Allemand, il déborde par le centre quand il négocie. C'est ça qui est prévisible. Et nous, on est un peu faible. Et pourquoi il y a un bimoteur? Parce qu'un système tel opéra avec bimoteur, ça permet de faire grandir Airbus dans toutes sa recherche d'avions de ligne. Parce que si on arrive à mettre qu'un seul pilote avec un système tel opéré bimoteur, on a un système qui est sécurisé et qui permettra de voler plus loin et moins cher. C'est ballot. C'est tout fait le fond du sujet.
Bon, en général. Rapidement, une question très courte. Vous nous avez décrit mon général, monsieur Pedemont, vous nous avez décrit un système qui, du fait des contraintes budgétaires et de devoir servir la dissuasion nucléaire, génère de l'incohérence ou génère au moins au départ des fragilités sur nos forces conventionnelles et finalement génère de l'incohérence. Or, on constate de plus en plus que notre dissuasion nucléaire est contournée par le bas de façon massive avec des pays militaires comme l'Inde et le Pakistan qui se font la guerre à coups de missiles balistiques. Cette situation me fait poser cette question. À quel moment, à quel niveau critique, à quel niveau d'incohérence des forces conventionnelles, la crédibilité, l'enjeu de crédibilité et de cohérence a des répercussions sur notre dissuasion nucléaire parce que, justement, elle n'est pas capable d'assurer l'épaulement ou l'empêchement du contournement de cette dissuasion nucléaire elle-même.
Merci, mon colonel. Bon, c'est un chantier intellectuel majeur qui a été ouvert en fait en 2020 par le président de la République en février 2020 dans son discours à l'école de guerre sur la dissuasion sous le terme d'épaulement. Novateur. À la doctrine française, intraduisible à bien des égards, venait incarner cette articulation nécessaire et indissociable entre les forces conventionnelles, qui sont celles qui signalent, démontrent au quotidien la résolution d'une nation à payer le prix du sang, à évidemment défendre ses intérêts, et le seuil nucléaire forcément discontinu, parce que on le dit, ça change la nature de la guerre, la mise en jeu des intérêts mutuels et donc des armes nucléaires. Je pense les données de l'adversaire comme nos propres données, mais il n'y a pas de. Les anglo-saxons disent there's no shortcut to the nuclear deterrence. Il n'y a pas de course à suivre pour sauter d'une armée type 1870 expéditionnaire pour dire ah bon, bah, si cette masse de manœuvre-là est défaite, bon, bah, l'étape suivante, c'est le nucléaire. On voit bien que ça ne marche pas parce que la crédibilité de dire j'ai un SDTIA en Estonie et qui se fait rouler dessus. L'étape suivante, c'est la gesticulation, l'ultime avertissement et la mise en jeu de mes forces nucléaires. On voit bien que la dissuasion, non pas parce que ce n'est pas cohérent vis-à-vis de soi-même, parce que ce n'est pas cohérent vis-à-vis de celui que l'on cherche à dissuader. La dissuasion, elle se passe dans les yeux de l'adversaire. Et si dans les yeux de l'adversaire, il ne voit pas cette continuité, pendant la guerre froide, vous aviez le corps d'armée français en Allemagne, et puis vous aviez la première armée qui arrivait, et si effectivement ces outils qui étaient les incarnations aussi bien dans la masse que dans les moyens d'une certaine volonté de la nation, si ces outils-là étaient détruits, évidemment, ça crédibilisait. Du territoire national avec tout un tas de choses, ça crédibilisait la mise en jeu de la dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, il y a besoin de reconstituer, non pas encore une fois un continuum, mais une articulation nécessaire pour crédibiliser une dissuasion d'autant plus qu'elle sera avancée et que l'imbrication des intérêts pourrait amener à des incompréhensions de la part de notre adversaire sur ce qui constitue réellement le périmètre de nos intérêts vitaux. Et pour ça, on aura besoin de forces conventionnelles, aussi bien aériennes, terrestres, que maritimes. Et donc ça c'est un chantier qui, me semble-t-il, a été ouvert, qui ne devrait pas inhiber les forces, notamment l'armée de terre, qui ne met plus en œuvre, depuis le démantèlement de la force aérienne, la dissuasion elle-même, mais qui concourt à la dissuasion par le signalement qu'elle envoie, par l'articulation, l'appui qu'elles peuvent apporter. Ça, c'est le premier. Et le deuxième point, c'est que cet épaulement est mutuel, et c'est-à-dire que d'agir dans l'ombre portée de la dissuasion nucléaire française, ouvre aussi aux forces conventionnelles des champs et des capacités de manœuvre qui devraient être exploitées. C'est-à-dire que quand vous avez la dissuasion dans le dos, si je puis dire, vous portez plus que ce que vous portez précédemment, et ça vous évite d'être auto-dissuadé. Et donc, ce que les Français peuvent se permettre demain, aujourd'hui, sur un théâtre, et plus important, notamment face à un adversaire nucléaire, et plus large que ce que peuvent se permettre un Allemand, un Estonien, un Polonais. Tout simplement parce que nous, on sait qu'en haut de l'échelle de l'escalade, il y a des dommages inacceptables que la France peut infliger à son adversaire. Et ça, il n'y a que le nucléaire qui le fait. Et donc, ça ouvre aussi des voies aux forces conventionnelles. Donc, on a besoin de cette articulation, on a besoin de l'exploiter, on a besoin d'une connaissance mutuelle plus importante entre les officiers des forces conventionnelles et les officiers des forces stratégiques, de la force océanique stratégique. Et donc, il y a une imbrication à un moment où on avait deux mondes qui s'étaient progressivement éloignés dans les jours heureux où, finalement, les intérêts vitaux n'étaient plus jamais mis en jeu dans des opérations conventionnelles.
Un grand merci. Je crois que vous êtes un petit peu pressé. Alors, on va prendre la dernière question, qui sera forcément la toute dernière pour le général Belloubet-Hulière. Et moi, je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir. Voilà, merci infiniment.
Alors, désolé, ce n'est pas
dernière, il est déjà 8h25.
Pour un futur modèle d'armée, quelle place pensez-vous que l'informationnel, les champs immatériels, le cognitif vont prendre? Est-ce qu'ils vont prendre plus de place, moins de place, autant?
Je vais offrir une réponse à la générale Georges Lin, qui répondait au ministre, qui lui expliquait une nouvelle fonction stratégique, connaissance anti-espèce. Général Georges Lin l'a regardé et lui a dit « Écoutez, ce qu'il y a de bien, c'est de savoir. Le problème, c'est savoir sans pouvoir, ça va quand même nous permettre d'avoir juste le temps de savoir à quel moment on va mourir et quelle est la position qu'il faudra adopter. » Tout le sujet informationnel, tout le sujet de l'influence, tout le sujet de la manipulation aura une place doit être justement dimensionné par ce qu'on est capable de mettre en œuvre sur le terrain. Alors, ça fait un peu langue de bois, tout ce que je vous décris. En fait, je ne crois pas qu'il faille diminuer, et en particulier pour cette notion d'épaulement mutuel qu'on vient d'évoquer, et dont le débat a été ouvert à compter de 2020, et qui était interdit auparavant. Vous savez qu'il y a des termes cachers, des termes qui l'étaient moins, le terme dissuasion était un terme cachère qu'il ne fallait pas employer pour autre chose, une notion de dissuasion. Ce que Jean-Paul Gallois, en son temps, avait décrit comme diplomatie nucléaire, dissuasion conventionnelle. Ce qu'on retrouve dans l'épaulement mutuel, où on a besoin d'une cohérence, je pense que c'est la suite du propos du général Docteur, si vous le souhaitez, on a besoin de cohérence sur la totalité du système qu'on met en œuvre. Maintenant, si on veut être capable de gagner la guerre avant la guerre, si on veut être capable d'éviter la contrainte, il faut accompagner l'ensemble de ces moyens parlent par eux-mêmes, en fait, qui donnent un signalement par la technique qu'il en est, avec tous les moyens périphériques qui existent. Et en fait, tout ce que vous décrivez sera en bonne proportion de la façon dont on instruit les populations. Hier, les armées ont inventé les premières organisations de manipulation de la presse, d'ingérence dans la presse, de fausses nouvelles, de rumeurs sur les médias qui existaient. Demain, les médias sont sur le web, sont dans l'espace plus ou moins nébuleux qui existe autour de chacune de nos personnes, et c'est là qu'il faut intervenir. Cette place sera importante, je ne suis pas sûr qu'il faille tout révéler. Et je ne suis pas sûr que cette place soit tenue que par les militaires. Tout ce qu'on décrit en particulier sur l'industrie est une chose qui est partagée et portée par l'industrie. Sachez que dans les missions que nous avons, qui sont remplies par la DRSD, il y a tout un contrôle de l'industrie proche de la défense et des personnes qui y travaillent. Et on sait parfaitement qui laisser, qui ne pas laisser, qui influer. On a la même chose, en fait, avec le monde qui parle à la population française. Aujourd'hui, l'information majoritaire que vous avez, c'est l'information des plateaux de télévision. C'est celle qui rentre dans le quotidien, l'ordinaire des Français, tous les jours, j'allais dire tous les soirs au moment du dîner, maintenant c'est toute la journée, tout le temps. Et en fait, l'ensemble de ces sujets est à traiter de manière collective. Toute cette réflexion me semble être une des conséquences ou des analyses qui sont tirées des exercices Orion, dans lesquels on met tous les ministères à contribution pour être capable de voir comment les choses évoluent. Donc c'est plus un sujet général défense et sécurité, c'est aussi un sujet d'information légitime par l'État, par l'autorité en charge de la population française, et qui permet d'être capable d'accumuler les choses. C'est exactement ce que les Britanniques ont organisé à partir de 1940, quand le territoire britannique a été bombardé par les Allemands. Et c'est là où le chef de l'État prend la parole et s'adresse à tout le monde. Souvenez-vous, c'est là que De Gaulle change le discours public à Bayeux et fait en sorte que l'AMGOP ne soit pas mise en place et met en place une administration qui lui est propre. Et en fait, la notion d'influence, de communication, de travail sur les réseaux, de travail sur le cloud, de données, indépendamment de la partie sécurisation qui est nécessaire et qui est fondamentale pour préserver les capacités même de nos armées, est partagée, me semble-t-il, par les services de l'État en accompagnement dans ce domaine.
Voilà, mon cher Eric, merci infiniment de nous avoir consacré 2 heures quand même. Merci beaucoup. Merci pour ta présence, parce que je sais que c'est un emploi du temps qui est véritablement très, 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 très chargé. Merci infiniment de nous avoir livré ton expérience, ta hauteur de vue, avec les fonctions éminentes que tu as exercées dans l'institution jusqu'à la fin. J'étais absolument ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, et puis bienvenue comme tu veux, bien entendu. Voilà, je pense qu'on peut applaudir. Merci. Merci d'être venu. Nous étions une 60aine quand même ce soir avec les gens qui étaient sur Internet, qui à 18h30 est déjà une belle petite séance. Donc merci à tous. La prochaine séance est en juin et nous traiterons, nous reviendrons à un sujet militaire, et politique d'ailleurs, qui sera l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine, on n'a pas parlé depuis longtemps, mais je pense qu'il est temps qu'on en parle un peu. Merci, bonne soirée à tous.